parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à
Dieu. Abba, 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 Alleluia, 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 Abba, Abba, Alleluia, Abba, Alleluia, Abba, Alleluia, Abba, 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 Abba,
Abba. Il y a des reprises dans le passé, Dieu dans le passé a parlé aux frères par les prophètes, à la fin ces jours où nous sommes, il a parlé par son Fils.
Alléluia. Alléluia, Alléluia, Abba, Alléluia, Alléluia, Abba, Alléluia, 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 une deuxième fois l'astique. Alléluia, Alléluia,
à bien des reprises, Dieu dans le passé, a parlé par nos frères, par les prophètes, Alléluia, ce jour où nous sommes, il a parlé par son Fils.
Alléluia. Alléluia, 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 en ce jour nous sommes, Alléluia, en ce jour qui sont là, Alléluia, il nous a parlé par son Fils, Alléluia, Alléluia, Abba, Alléluia, 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 Abba, 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 Abba. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec vous.
L'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon sa vie.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les bergers s'arrêtent d'aller à Bethléem et ils découvrent une voix. Ta Maria, Don Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire d'animaux. Après avoir vu, il raconte ce qui leur a été annoncé au sujet de l'enfant. Et tous ceux qui entendaient s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, gardait tous ces événements et le faisait tourner dans son cœur. Alors les bergers repartent et ils glorifiaient et ils louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Lorsque fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Que ton évangile, Seigneur, s'inscrit dans nos âmes qui nous lavent de toutes nos fautes, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Amen.
On va quand même lire le...
C'est pour ça.
La tête divine, tu parles. Peut-être que l'Église ne parle pas parce que elle est trop occupée à parler des grandeurs de Marie plutôt que de parler du chaos. Elle est trop fascinée par le mystère de Marie et du coup elle ne s'exprime pas sur autre chose. C'est probable que ce soit ça la vraie raison. C'est par la maternité virginale de Marie que le Verbe est devenu chair. En adorant dans l'enfant de la maison du pain, le Fils de Dieu fait homme. En l'adorant comme notre Dieu, nous reconnaissons que Marie est mère de Dieu, nous pénétrons en elle là où elle l'engendre. Éternellement en Dieu comme Dieu vivant dans la chair. Avant qu'il ait été conçu, l'ange lui a donné son nom. Donc elle a engendré l'engendrement dans la chair avant l'engendrement dans la chair lui-même à l'intérieur de Dieu. Mais si la maternité divine de Marie s'inscrit dans toute la liturgie de la Jérusalem, de la terre et du ciel, les chrétiens de diverses demeures, celle du ciel, celle de la gloire, celle du monde incré de Dieu, celle de la nuit, celle de la souffrance, celle de la foi ardente et de la charité. Toutes les parties potentielles de l'Église, en acte dans le souffle du Saint-Esprit, dans la maternité divine de Marie, ont aimé à consacrer ce jour d'aujourd'hui pour honorer la Mère de Dieu. Parce qu'elle est mère de Dieu, et c'est parce que c'est de Dieu qu'elle est la mère. Ah, l'Église de Rome a choisi pour cet hommage l'octave de la nativité. Bien avant que ce jour ne marquât en Occident le principe de l'année. Joli ça. Ah, c'est la nouvelle année, je suis pas au courant. Ah bon, vous êtes au courant de quoi? Bah, c'est la mère de Dieu. C'est ça la raison du silence de l'Église.
Spoko. Mon frère m'a dit, je discute avec Philippe et puis Véronique, ils sont des juifs, Paris. Ils ont toujours vécu dans le milieu des juifs, avec les rabbins. Et Philippe et Véronique disaient à Bruno, mon frère, chez nous, on n'est pas au courant. On n'a jamais, on ne sait pas, non. Moi, j'ai jamais su. Philippe, non plus personne, chez nous, on ne sait, ces choses-là. D'avortement, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, on ne le sait pas. Alors, c'est elle qui explique qu'elle a téléphoné à son frère, le philosophe, pour expliquer ce que c'est qu'un avortement. Et lui, t'es ahuri au téléphone, dit non, attends. Non, attends. Si, c'est comme ça, c'est ça, c'est un avortement.
Parce qu'ils le font jamais.
On ne se doute pas de l'ignorance des ignorants.
Les juifs le font jamais.
C'est ce que j'ai entendu dans la bouche. De Simone, par exemple. Simone, je l'ai entendu de sa propre bouche. Bien sûr, je fais ôter une loi. Mais pourquoi vous savez ce que c'est qu'un avortement? Non. Nous, les juifs, on ne sait pas ce que c'est qu'un avortement. Chez nous, les juifs, il n'y a pas d'avortement. Donc l'avortement n'existant pas, nous n'en parlons jamais. Et donc il n'est pas question de savoir ce que c'est qu'un avortement, puisque l'avortement, ce n'est pas pour les enfants des juifs. Pourquoi vous avez fait voter une loi pour l'avortement des non-juifs? Il dit parce que l'avortement des juifs est interdit. On n'avorte pas un enfant juif. Et c'est vrai, mon frère disait, voilà tout simplement, cette petite Véronique disant, bah, moi je ne savais pas. Alors Bruno lui explique quand même un petit peu, comment est-ce que c'est que l'avortement? Comment ça passe? Comment ça se fait? Comment ça agit? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils n'avaient jamais porté leur attention sur cela dans leur famille, dans leur cercle politique, dans leur cercle intègre. Les discussions dialectiques portent sur autre chose. C'est un sujet qui n'existe pas, c'est une connaissance zéro. C'est impressionnant ça. Cette connaissance zéro. Et elle disait à Bruno qu'elle était à sa 7e, 8e coup de téléphone avec Bernard pour expliquer ce que c'était, puisque lui-même avouait qu'il n'était pas au courant, qu'il ne savait pas du tout ce que ça représentait dans le réel, quoi.
Ouais, c'est ça.
Hein, ce que ça représentait. J'avais pensé, j'avais porté son attention là-dessus. Elle dit, mais c'est d'une violence incroyable. Je suis complètement écrasé et communiqué l'étonnement de cette connaissance nouvelle, quoi. L'église de Rome a choisi pour cet hommage l'octave de la Nativité. Bien avant que ce jour ne marquât en Occident le commencement de l'année. Commencement de l'année, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne connais que la mère de Dieu. C'est beau ça. C'est beau ça, la Torah. Il y a quelque chose de grand quand même dans la Torah. Puisque l'avortement n'existe pas dans la Torah, donc on n'en parle même pas. On n'en sait rien. Et on n'a rien à en savoir. Oui, les enfants des Goïm, bien sûr. Ça, c'est pas grave. En saluant la mère de Jésus, n'oublions pas qu'elle est aussi la mère divine de notre divinité. Partagée, reçue. Engendrante et engendrée. N'oublions pas cela. La mère de tous ceux qui, par ce fait même, ont un seul corps avec le mystère de l'incarnation et respectent tout du verbe vis-à-vis de son incarnation. D'accord. Quand le Verbe de Dieu assume dans son incarnation, la nature humaine qui va assumer, c'est notre nature qui est assumée dans la divinité engendrante et engendrée, la maternité divine de Marie en nous. C'est beau quand même, le texte de l'Église. Attention, c'est pas.
Oui, oui.
C'est pas des textes dogmatiques, ça, c'est des textes introductifs liturgiques.
C'est
la grandeur de l'Église d'être le temple de la doctrine et de la réalité, parce que qui dit doctrine dit réalisation de ce que ça signifie, c'est-à-dire présence réelle, de la maternité divine de Marie dans nous. Alors, stupéfait, nous restons silencieux, on vient nous embêter avec un saucisson qui n'est pas de bonne qualité. Excuse, mais. Oui, c'est pas. Le saucisson n'est pas de bonne qualité. Ah, m'excuse, je suis occupé, moi. La sainte liturgie. Vous pourriez réagir au saucisson qui est de mauvaise qualité. Oui, oui, je pourrais réagir, oui, si vous voulez. C'est la grandeur de l'Église, ça. L'Église n'a pas. Hein. L'hommage rendu à Marie ne relègue pas dans l'ombre les autres aspects de ce jour solennel. Le 8e jour après la nativité, celui de la circoncision et de l'imposition du nom de Jésus. Et les années passent. Et le Christ demeure. Et pour la communication au monde, et l'Église proclame ce jour comme l'année, pardon, le jour mondial et universel de la paix.
Ouais.
Mais tout nous ramène au Christ engendré par sa mère. Il y a une autre chose aussi. C'est le pape Paul VI. Hein. Tu me dis pourquoi est-ce que François a canonisé le pape Paul VI quand même. Quand même. Eh oui, aucun autre papa avant lui n'avait osé faire une définition expresse de la maternité divine de Marie sur toute grâce. Elle est mère de toute grâce, engendrante de toute grâce, elle est mère de l'Église. La proclamation, toujours que les gens disent « Attends, il faut proclamer Marie, médiatrice de toute grâce. » Mais elle est déjà faite par Paul VI. Elle est mère de l'Église. Aucun autre prêtre n'a osé, aucun autre pape n'a osé dire ça. Il l'a proclamé, j'allais dire, en communion avec tous les évêques du monde présent, j'allais dire. Un assentiment d'obéissance, on peut dire, parce que on peut dire qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord. À lui tout seul, un peu comme Saint Athanase, il a imposé l'expression universelle jusqu'à la fin du monde de l'Église de Marie médiatrice de toute grâce. D'ici, ça ne se fait pas si nous ne le faisons pas ensemble, dans une proclamation unanime, la cathédrale. Je ne signe aucun des décrets du Concile. Aucun. Gaudium et spes. Lumen gentium. Dei verbum. N'existe plus. Voilà ce qu'il leur a dit. Marie médiatrice de toute grâce est beaucoup plus important que toutes les constitutions dogmatiques et même la synthèse de toutes les constitutions dogmatiques et de toutes les proclamations dogmatiques de tous les autres conciles. Et il l'a formulé comme ça. Tu Je connais beaucoup de papes qui ont été capables de faire ça, qui en connaissent une hauteur de vue, voilà, une subsistance dans le Verbe de Dieu à ce degré de pénétration et d'actuation.
C'est pour ça que les traditionnalistes l'aiment tant.
Parce qu'il a relativisé le concile à la maternité universelle de Marie. Vatican II n'est pas un absolu. L'absolu, c'est la maternité divine de Marie, qui est la source et la lumière. Le critère oblique, comme dirait Jean-Paul II, de la parole de l'Église dans ses constitutions dogmatiques universelles et synthétiques. Et il est canonisé, bien sûr, par François, bienheureux, Paul VI.
Oui, il est pas encore ça.
Nous attendons le prochain pape pour le canoniser.
Il y a une
quand le pape Didier VII sera pape, il canonisera le pape.
Ah, c'est bon. Didier VII. Le pape Didier VII, ça fera un temps. Non. Enfin, ça va réfléchir. Il a la droite, potentiellement.
Didier VII.
Lâchez-vous.
Pour une fois, le peuple de Dieu et de la terre comprendra pourquoi la fumée qui sort du Vatican est grise. C'était prophétique, le pape Didier VII proclame.
Je peux me permettre de parler.
Et il dira pourquoi. Il dira pourquoi en le canonisant. Il dira pourquoi lorsque l'Église proclame. Voilà, comme appartenant au corpus de la foi infaillible de l'Église. Cette source ainsi proclamée devient à partir de ce jour-là, et non pas avant, mais à partir de ce jour-là seulement, trouve sa fécondité dans le temps de la terre. Que Marie soit mère, médiatrice de toutes les grâces, on le savait. Mais qu'elle soit proclamée dans l'infaillibilité de la parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Que me soit fait selon ta parole. Elle devient efficace à partir de ce jour-là. Avec celui qui l'a proclamé. Et donc ça fait seulement depuis 1967, enfin depuis en fait la clôture de la deuxième session du Concile en 1964. Que Marie proclamait mère de l'Église. Ça fait 52 ans. Et l'année qui vient nous donnera la 53e année, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait seulement 50 ans, quoi. À jubiler, on est arrivé au jubilé de cette proclamation-là. Elle ne prend son effet qu'à la signature, bien sûr, à la clôture du troisième session du concile, c'est certain. C'est pour ça qu'il y a 300,5 de battements. Hein. C'est normal, ça. Il y a toujours ce 1290 jours de battements. Mais un jubilé, c'est un jubilé. Hein. C'est 50 ans. Hein. C'est encore un autre aspect de l'année qui vient, 5777. Et vraiment structuré très profondément par cette lame de fond de la maternité divine de Marie qui doit faire éclater au fond ces manifestations dans la chair de la vie divine de Dieu, le Verbe. Quand le Verbe va prendre possession du corps spirituel déposé en nous. dans sa subsistance, de nos hypostases, dans l'hypostase incréduable de Dieu, c'est ça, c'est beau ça. C'est la maternité divine de Marie vis-à-vis de l'Église, qui devient sur le temps de la terre, seulement depuis une cinquantaine d'années, une fécondité effective. En 1950, c'était l'Assomption qui était proclamée. Hein. Mmh. Et à la 14e année de sa vie, elle a été donnée en spontanéité à Joseph. Si l'incarnation a eu lieu en sa 14e année, donc voilà. Cette proclamation s'est faite 14 ans après, 64, c'est vrai. Il y a quelque chose de très très fort qui s'est passé entre le pape Pie XII et le pape Paul VI. Et dont nous sommes les héritiers contemporains, si je puis dire, puisque nous sommes la seule génération à avoir reçu ça, de toute la chrétienté. Et c'est bien un jour de la maternité divine de Marie qu'il faut s'en préoccuper quand même, pour se placer au bon endroit, pour que la voix y pénètre dans le lieu où elle est féconde et efficace en raison de l'infaillibilité de l'Église. On n'explique pas assez l'infaillibilité de l'Église. L'infaillibilité de l'Église ne porte pas sur le fond formel de la foi proclamée, mais sur le temps. Il doit commencer à devenir efficace. C'est là où l'Église est infaillible, c'est sur le temps. On n'explique pas assez. Et du coup, ça ne permet pas aux catholiques de prendre leur responsabilité, de prendre autorité. Et souvent, on voit sur un forum, par exemple, le forum de la paix ou je sais pas quoi, bon, on voit les échos après d'autorité. C'est pas expliquer l'infaillibilité. Il faut prendre autorité. Celui qui prend pas autorité, on n'a pas abdiqué son autorité. Tu vois, Saint Joseph, lui, il abdique son autorité. Il dit, Ange Gabriel, attendez, c'est quand même le bon Dieu. Hein? Attends, c'est la mère de Dieu. Alors, c'est quand même pas mal. Tu prends l'enfant et la mère, mais tu le prends pourquoi? Moi, je fais rien du tout. Il n'a pas abdiqué son autorité. Aussitôt, il a pris l'enfant et la mère. Et hop, debout, chut, hop, hop, sur l'âne, et toi.
Ah ouais.
Ben, évidemment, il fallait que ce soit une épouse. C'est vrai. Il fallait qu'elle soit émanée de lui, c'est vrai.
Rares sont les tableaux dont on représente le mariage de Joseph et Marie.
La Sainte Famille.
C'est rare.
Si on offre la Sainte Famille.
Pardon ?
Oui, la petite tableau de la Sainte Famille.
Voilà. Non, le mariage, la cérémonie de mariage.
La cérémonie,
c'est rarissime. Si vous voulez le voir, il y a une très belle représentation à Notre-Dame de la Riche à Tours. C'est exceptionnel, il y a des gens du monde entier qui viennent pour voir. Et les Tourangeaux ne le savent pas.
Oh, si.
Non, très peu, malheureusement.
À Notre-Dame de la Riche.
Notre-Dame de la Riche, là où il y a les reliques de Saint François de Paule.
Et à Bethléem.
Hmm?
Il y a un vitrail de Bethléem.
Ah non, mais je n'ai pas dit que c'était le seul endroit du monde. Comment je parle de proximité. Tours, c'est pas très loin.
Et il n'y a pas une cérémonie de mariage, il y en a deux.
Ah, en plus, bah, moi je suis prêt à en savoir plus, hein. Ça m'intéresse. Je trouve ça c'est extraordinaire, comme je suis passé de voir. Que c'est beau. Vous avez deux témoins de mariage, de chaque côté, c'est une belle représentation.
C'est un tableau ?
Non, c'est des statues, c'est une représentation statuaire. C'est pas ni un vitrail, ni un tableau. On n'en parle pas souvent du mariage, mais je trouve que par rapport, pour contrer un peu le mariage dit pour tous, donc pour personne, de valoriser le mariage de Jésus et de Joseph et Marie, c'est quand même pas mal. La Sainte Famille.
Oui. Mmh. L'unité sponsale.
Ah oui.
Immaculée.
Ah ouais.
Transactuation. D'éternité.
L'unité sponsale. Immaculée.
Source et principe de l'envoi du Saint-Esprit. Dans sa sentence et en autorité infaillible à cette époque-là.
Par contre, je ne sais pas.
Il envoie du Saint-Esprit comme personne divine.
Oui,
dans celui qui avait l'autorité à cette époque-là.
Ouais.
C'était le dernier naci d'Israël.
C'est comme...
Et il a été pris par le Saint-Esprit, c'est dans l'évangile de Saint-Luc, qui émane de la transactuation surnaturelle et immaculée, responsable d'éternité de Marie-Joseph. Aussitôt.
Et qui est capable de me dire quand est-ce qu'ils se sont mariés?
Mais bien sûr, l'Église sait tout.
Eh ben, pour l'instant, je ne sais pas.
Ah.
Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont mariés.
Eh bien, retournez au catéchisme élémentaire et nous donnons là-bas.
Oh non !
Que nous donnons là-bas à la chaise Dieu,
ah, oui,
à sa sac, aux enfants de 5, 6 et 7 ans. Oui. Et vous saurez toutes ces choses, ainsi que l'ancienne Église, de manière immémoriale. Mais on ne peut pas savoir la doctrine de l'Église si on n'a pas été enseigné par l'Église dès la plus tendre enfance. Et si on n'a pas été fidèle à cet enseignement et à être enseigné par la Sainte Église depuis la plus tendre enfance.
Je vais faire un tour de table pour voir qui connaît la date de mariage de Joseph et Marie.
Bon, je vois que tu n'as pas connu ma Maureen, toi.
Non. Sauf par...
Elle t'aurait envoyé en touche rapidement. Ah, elle leur envoyait en touche rapidement en disant: à votre place, je ne me glorifierai pas d'une ignorance aussi invincible.
Comme si je me glorifiais.
Tout est marqué, tout est écrit, tout est inscrit et tout est donné, tout est porté par la Sainte Église. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il y a aussi des vidéos où on parle comme ça, les gens, pour expliquer ces choses-là. Des sites, même internet, qui ne cessent d'en expliciter les tenants aboutissant de date et durée pour un nombre de mesures. Voilà. Mais nous mettrons au courant avec l'ensemble des références de ces textes, qui sont évidemment innombrables.
Non,
mais souvent, les personnes disent: moi, j'ai pas lu ce texte, donc il n'existe pas.
Des apocryphes,
non, l'enseignement de l'Église, c'est pas l'enseignement de l'Église, c'est pas seulement le corpus doctrinal. L'Église a une tradition orale, elle a une tradition spirituelle, elle a une tradition mystique. La doctrine de l'Église, c'est pas seulement le dogme. C'est sûr, ça. Par exemple, le retour d'Élie et d'Enoch, de démon d'Apocalypse, c'est la pensée et la doctrine de l'Église depuis Moïse. Enfin, depuis Moïse, depuis Élie. Mais ce n'est pas... Mais c'est pas le dogme. C'est pas un dogme. Tu peux très bien ne pas y croire, tu ne peux pas pécher contre la foi dogmatique de l'Église. Donc il faut faire attention. Et bien sûr que nous avons tout ce qu'il faut. Et même si il venait par malheur à ce qu'on ne le sache pas, ou que c'est impossible de le savoir, ce qui est impossible par soi-même, il y a toujours une mémoire qui reçoit ces choses-là, qu'on peut retrouver. Sous le souffle du Saint-Esprit. Vous savez, sous le Saint-Esprit, vous désirez le soir. Je peux vous dire, vous savez, hein. Vous n'avez jamais entendu parler de la bar mitzvah?
Oui, si.
Ah. Comment le serait la bar mitzvah chez le jeune homme ou la jeune fille?
La bar mitzvah, parce que c'est l'équivalent de
l'âge adulte.
Ouais.
Voilà, comme ça tu as la date. Parce qu'il y a 613 préceptes dans la Torah. 613.
Mais j'ai pas la date du mariage.
Ça donne la date du mariage, parce que... Évidemment que ça donne la date du mariage.
Ça fait 12 ans.
Il faut connaître le Talmud quand même, un petit peu, minimum. La doctrine rabbinique, c'est mieux. Puisque il suffit la doctrine rabbinique à cette époque-là. Et donc cette transactuation surnaturelle, immaculée, d'éternité, qui se réalise dans le temple, ben, a son fruit. Le fruit de la transactuation surnaturelle, c'est pour ça déjà le sacrement normal. Fait de vous dans le troisième de l'au-delà de l'unité, c'est pour ça des deux, le nid de la présence réelle de l'émanation du Saint-Esprit dans l'unité des époux et des épouses, c'est-à-dire du Père et du Fils. Et là, quand il s'agit de la transactuation surnaturelle et immaculée, d'éternité de Marie-Joseph dans le temple, bien sûr que l'émanation du Saint-Esprit, dans sa présence réelle, se communique immédiatement dans cette royauté à le sacerdoce présent de l'époque et l'autorité. Sacerdotale présente, le dernier nazi d'Israël, qui reçoit toutes les autorités antécédentes depuis Moïse. Pour son propre ministère, c'est Rabbi Hanashi Shimon. Et l'évangile de Saint-Luc précise qu'il a été rempli de la personne du Saint-Esprit. Ça ne pouvait donc venir que du fruit du sacrement et du mariage de Marie et Joseph. Et du coup, il a prophétisé la transverbération. Et l'avertissement. Il a prophétisé les deux. Parce que ça va rentrer, pénétrer. Dans le lien qui unit la chair, le sang, l'âme et l'esprit et la lumière de tous les hommes, de toute la multitude des hommes, d'un seul coup. C'est ainsi que seront dévoilées les pensées secrètes de toute la multitude. Donc il a prophétisé la transverbération et l'avertissement. Au ministère d'Israël, ça. Mais c'est pas plus longtemps. Paul VI, je me rappelle, j'étais en train de marcher d'un pas intrépide. Sur les Champs-Élysées. Je me rappelle, je montais les Champs-Élysées vers l'Arc de Triomphe, de mon lieu de travail, à 200 mètres, et puis je vois un journal là, sur le bord. Le pape est mort. Le pape Paul VI. Mort. C'était le jour de la transfiguration. C'est une confidence gentille que je vous fais, c'est pas pour dire que peut-être c'est parce que je suis tardé, c'est pas. Mais c'est tout de suite ce qui est venu à mon esprit. Si c'est ma faute, j'ai senti que c'était à cause de moi. Ça m'a fait un coup. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Elle a pensé que c'était à cause de moi, que le pape aussi était mort. C'est le jour de la transfiguration. dévastation, la paternité de Dieu, la paternité divine sur la terre, est dévastée ainsi suite. En France, dans le nouvel Israël de Dieu, la loi de clonage, ainsi suite. Que les antéchrists, c'est-à-dire ceux qui ont quitté, ils étaient chez nous, mais ils ont quitté le bateau. Si ça avait été chez nous, ils seraient restés avec nous. Ils ont quitté le bateau. Et la chrétienté qui a quitté le bateau, Pierre, a choisi trois villes dans le monde pour exterminer les catholiques. Nagasaki.
Exact.
Dresde.
Hiroshima.
Et Hiroshima.
Exact.
Les trois seules villes où il y avait
ouais.
un million de catholiques. À Dresde, 90%, 99% de la population était catholique. Mm-hmm. Il n'y a pas eu un seul survivant.
Non, 200 000 morts.
300 000 morts.
300 000.
C'est où Dresde?
En Allemagne,
Nagasaki.
Et le Japon était catholique. Les...
Nagasaki, Hiroshima, les seules villes
catholiques
où sont regroupés les 2 millions de catholiques étaient présents dans ces deux villes. Il fallait qu'il n'y en ait plus un seul.
Et il y a même un miracle qui a eu lieu à Hiroshima, le miracle du rosaire.
6 août. D'accord. 6 août 1940. C'est effroyable, c'est là qu'on voit.
C'est la
transfiguration. Qui est Eisenhower, qui est le président des États-Unis.
Et le 9, c'est la
Et ils ont bien choisi ces villes-là.
Saint-Anne.
Comme si c'était les ennemis, c'était les ennemis de. Les ennemis.
Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de prise sur les catholiques. Des vrais catholiques, on n'a pas de prise sur
eux. Le 6 août, le pape Paul VI est mort. Ce jour anniversaire. Parce que dans ces choses-là, ils se démasquent d'une manière officielle, on peut dire.
78.
Et c'est là qu'on voit ce que c'est que le protestantisme.
78, je crois.
6 août, Hiroshima. 6 août, la mort de Paul VI.
Oui, mais 1978. Paul VI.
Ben, évidemment.
Ben, évidemment. Ah. D'accord, ça me va.
Le même jour?
6 août.
Hiroshima.
C'est le 6 août, c'est le jour de la transfiguration.
Ça a été Hiroshima et la deuxième, Nagasaki. Hiroshima, c'était lors de la fête.
Mais c'est la fin de la guerre, 1944, réfléchissez.
Et la deuxième, c'était le 9 août, trois jours après, il lâchait sur Nagasaki.
Et le pape Paul VI.
Il est mort le 6 août 1978.
Et plus tard, beaucoup.
Oui, bah oui.
Bah, évidemment, Paul VI n'est pas mort pendant la guerre. Mais le 6 août est choisi. Ce sont des anniversaires de la transfiguration. La transfiguration représente dans le mystère du rosaire, d'après le Saint-Père, la virginité du corps spirituel de Marie, une virginité nouvelle. Celle qu'elle doit revêtir pour la maternité divine de l'Apocalypse. C'est ça. Cette dévastation de la maternité divine de Marie, voilà. En frappant celui qui la proclame. C'est la même chose, voyez, que de frapper le flanc de l'Orient. La poignée de catholiques qui est là doit disparaître. À l'Orient. C'est un 6 août aussi, il me semble. C'est vrai. Mais je me rappelle bien cette parole qui m'était montée, je marchais. J'ai continué à marcher de mon pas intrépide. Mais j'étais troublé quand même, j'étais choqué. Parce que je ne me rendais pas compte à quel point le lien était puissant entre Pape Paul VI et nous, et chacun d'entre nous. C'est de ta faute. Et j'ai eu une petite saline, quelque chose. Une petite émotion. C'est de ta faute. être présent. À la mort du saint-père suivant, j'étais pas présent non plus.
Ah oui.
Et j'ai voulu être présent à la mort du suivant. J'ai voulu, je l'ai demandé. Parce qu'on doit être responsable. On a autorité. Et on ne doit pas abdiquer l'autorité. Ah oui, c'est fatigant. Hein. 3 messes par jour. Même le dimanche. C'est pour le pape Didier VII. Oui. Pour le pape Didier VII.
C'est ce que je jouais au mois d'août au théâtre.
Ton abscisse est révélateur. Désolé, j'ai vu tout seul. Je ne sais pas.
C'est lui qui a proclamé un matin divine de Marie universelle. C'est lui. On va chercher. Hein. Oh, tout ce que Vio lui a fait, tout ce que Benigni lui a fait, ce que Casarelli lui a fait.
Pas mal de misère, hein.
Pire que les émissaires de Ponce Pilate vis-à-vis de Jésus. Quelque chose d'atroce, finalement. Comment se permettent-ils ces gens-là, ces francs-maçons revêtus de pourpre, de torturer le Saint-Père, même physiquement? Même physiquement? Est-ce qu'ils ont un prix de torture physique? Même au pape Jean-Paul Ier, ils se permettent, ils s'autorisent quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est terrible. C'est cinglé. Et on n'est pas là à s'interposer. Et je me sens bien. Il faut une parole à dire. Je ne suis pas mécontent qu'une parole soit dite. Voilà, il faut qu'une parole soit dite. Il faut démasquer quand même ceux qui s'autorisent à torturer même physiquement la bouche de Jésus sur la terre. C'est... Ah, ils l'ont frappé, oh, bien sûr.
Ils ont frappé
le pape. Le pape aussi, ouais.
Et quand j'ai entendu, moi, des détails sur ce qu'ils ont fait à... Jean-Paul Ier. Ça me paraissait tellement. Le pauvre pape Jean-Paul Ier était terrorisé. Les yeux habitaient tellement quand ils lui ont fait ça. Ça a duré. L'âge de Satan dans les antichrists en rouge. Il faut que les choses soient dites, vous savez.
Il me semble bien qu'il est temps.
Et François a raison. Il le fait avec la miséricorde qui convient. Oh. Et c'est très bien. Mais maintenant, c'est la course contre la montre. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est lui ou eux. Oh. Et donc, il faut que nous prenions autorité. Parce que ce sera de notre faute, c'est vrai, si on ne prend pas autorité. Mais...
Comment
je me rappellerai toujours, ça m'a frappé, ça m'a choqué, ça m'a étonné, quoi. Je vois ce papier journal, le titre. Et c'est en 78, oui, là, en 5738, du calendrier d'Israël, un jour de transfiguration. Jean-Paul II disant que la transfiguration c'est la création par le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour Marie d'une virginité nouvelle, surnaturelle, divine, nouvelle. une fécondité nouvelle, une maternité nouvelle, celle de l'Apocalypse. C'est quand même beau ça. Bref, pour les générations chrétiennes qui nous ont précédées, elles n'avaient pas accès à ça. Et ça, c'est vrai. Et ceux qui sont restés à la scolastique décadente n'ont pas accès à ça. Le monde ancien n'avait pas accès à ça. C'est le monde nouveau. Et nous sommes donc les premiers à en avoir, un peu comme les bergers, reçu l'annonce. Alors nous cherchons partout cet avoir de nos yeux de chair, cette fulgurante, cette fulguration transfigurée de vitesse pensale de Marie et Joseph pour y pénétrer et de la faire naître dans le monde du temps où nous sommes, dans l'Église, la Jérusalem spirituelle immaculée transfigurée, dont nous sommes les récepteurs.
On peut le faire que mystiquement, prendre autorité. Il n'y a aucune pédagogie à niveau humain par rapport, je sais pas, sur la science prométhéenne, sur le fait de faire les trois rudiments de pierre, je dis n'importe quoi. C'est quelque chose pour informer les gens, moi, je sais pas. Moi. Ouais, c'est mystique, on le sait que mystiquement. Ah non, mais attends, je vous pose une question, je voudrais savoir. On se bat que mystiquement. C'est pas la peine de transpirer pédagogiquement, éducativement.
Non, pas mystiquement. Tu prends autorité souverainement. Tu prends autorité divinement. Tu prends autorité réellement. Tu prends autorité comme engendré éternel de Dieu dans la nuit accroissée de l'âme. Le ciel et la terre passent par la foi. Et la nuit à cause de l'âme et de la foi. Et donc c'est souverain, c'est royal, c'est sacerdotal. Ce n'est pas mystique, c'est théologal. C'est divin, c'est surnaturel. Mais c'est dans la chair et le sang.
Donc à niveau humain, je ne fais rien.
C'est dans la chair et le sang.
Au niveau humain, on reste tranquille. Oui.
Au niveau politique, on ne fait rien.
Bon, exactement.
Mais au niveau... C'est ce qu'on fait la nuit,
vas-y. Oui, d'accord.
Prends autorité. Et ça, c'est bon. Et donc, il y a un petit peu comme Marie. Marie dit, voici, je m'aime. La servante du Seigneur. Un Elohim. Qui me soit fait selon ton verbe. Donc, elle prend autorité. Est-ce qu'elle l'a fait politiquement? Là, l'ange Gabriel est apparu dans un espace bien déterminé d'une grotte, d'une demeure qu'on visite encore aujourd'hui. Et l'ange était séparé d'elle. Par un espace qui permettait que ce ne soit pas fusionnel. Hein. Et donc, elle s'est exprimée avec autorité. Elle a dit que cela se fait. Elle a engendré en elle-même sa coopération par la foi toute pure dans le fiat éternel de son âme. Oui. Oh oui, divin et éternel de Dieu. Et là, elle a pris autorité. Donc, tu vois bien que du coup, qu'est-ce qui s'est réalisé? Une supervenue du Saint-Esprit, des grandes profondeurs de son rire, une abombration, la paternité accrue de Dieu, de ce oui, et une conception agréée dans l'assomption de son oui. Voilà, tu as donc ici les cinq règles de la prière d'autorité.
Donc on enlève. Plus simplement. La petite Esther, elle nous a dit, je vous ai choisi, la petite Esther. Estelle Faguette.
Je vous ai choisi. Elle a choisi le Père Patrick pour les scapulaires, hein, de Pelle-Madame. Et en plus, elle a voulu, le Seigneur a voulu que j'aille mettre une croix là-bas.
Ah, oui.
Avec « Je vous ai choisi ». Bon, en plus, la Vierge Marie nous a donné l'épée de l'esprit. Tu te l'as bien vu, je te l'ai montré. Tu comprends, c'est tout relié. Mais bien sûr, on ne comprend pas, on ne peut que le comprendre quelque temps après. C'est tout un ensemble, c'est mystique.
Ah, mais je ne veux pas parler de compréhension.
Dis-moi ce que je fais pour prendre autorité. Il parle pas de ça, il dit comment pour prendre autorité.
Oui, mais justement, on peut prendre autorité qu'avec ce que le Seigneur nous donne.
Il nous donne.
Alors donc, un futur chevalier, il doit le savoir aussi. Parce que c'est quand même la colonne royale et la colonne. Le Seigneur nous a mis ces deux colonnes ensemble.
Oui. Non, soit la prière d'autorité est une prière. C'est une prière théologale, c'est une prière de Dieu vivant dans un être humain encombré par la nuit totale de la foi.
C'est la subsistance de Dieu en nous.
Et donc c'est avec le ciel et la terre subsistant en nous qui va s'exprimer à travers notre bouche, qui obéit au ciel et à la terre pour prendre autorité à travers nous. J'accepte d'être un instrument. Mais on ne quitte pas le Saint-Père. Tu vois, dans notre prière d'autorité, j'ai plus du tout envie de quitter le Saint-Père, moi. Je ne veux pas quitter le Saint-Père, à aucune prière d'autorité, d'aucune nuit. Je t'assure, j'ai eu mon premier avertissement sur les Champs-Élysées, en disant tu n'étais pas là. Quand j'ai entendu, sorti de la bouche de Marthe Robin, ce qu'ils avaient fait avec Jean-Paul Ier, c'est pas possible. On ne peut pas lâcher le Saint-Père, hein, d'accord? Donc là, j'y étais pas non plus. Hein. Je sais pas, cet attachement aux trois blancheurs est devenu une nécessité pour la prise d'autorité. Mais c'est un attachement de fidélité, si tu veux. On est en lui, quoi. Et on est dans l'infaillibilité, trois en un, en trois.
Dans les trois blancheurs, donc la doctrine de l'Église,
ben,
toutes les dimensions de l'Église. Toutes ces dimensions que vous avez dites.
Les trois blancheurs, c'est l'infaillibilité du Saint-Père.
C'est
le fruit de l'Eucharistie. Et c'est la présence de l'Immaculée Conception dans ma conception.
Et
dans la nature humaine tout entière.
C'est toutes les dimensions de l'Église.
C'est les trois blancheurs, Marie, le pape et l'hostie. Donc ces trois blancheurs, c'est ça.
Deux.
Voilà. Et dans les trois blancheurs, il y a l'infaillibilité du Saint-Père. Trois en un endroit dans lequel je pénètre, parce que je suis récepteur de l'unité, de l'émanation des trois en un endroit, de l'infaillibilité du Saint-Père. Et là, je pénètre en ça. Et j'ai autorité avec lui. Et le nard se répand. Et je ne lâche pas le Saint-Père là-dessus. Et je ne suis pas lâché par le Saint-Père. Et on ne peut pas lâcher l'infaillibilité. On ne lâche pas les trois blancheurs, on prend autorité. Nous avons autorité. Et on dit, je prends autorité. Et Saint Hildegard nous a expliqué, parce que tu cherches une méthode, mais il n'y a pas de méthode. Il y a une voie d'accès, d'accord? Il y a une voie, il y a un chemin qui nous indique le jalon profond de la prise d'autorité. Ça ne peut se réaliser que par des membres, des enfants de Dieu sur la terre, membres vivant de l'Église militante, qui sont sous le régime de la foi. Rien ne peut s'exercer dans la prise d'autorité, si ce n'est par les enfants de Dieu qui sont sous la nuit substantielle de la foi dans l'Église militante. C'est pour ça que Marie.
Est-ce qu'on est beaucoup dans le monde?
C'est pour ça que Marie ne peut pas prendre autorité parce qu'elle n'est plus dans la nuit de la foi. Saint Joseph ne peut pas prendre autorité parce qu'il n'est plus dans la nuit substantielle de la foi. Le pape Saint Jean-Paul ne peut pas, enfin, si, enfin là, c'est un mauvais exemple. Le pape Saint-Pédis ne peut pas prendre l'autorité parce qu'il est putain la nuit, putain, c'est ça.
Le discernement n'est pas évident, quand même. En même temps, on voit tout est mis en œuvre dans chacune de nos personnes parce qu'on ne peut que s'en rendre compte. Parce que c'est quand même pas rien dans une vie humaine, dans toutes ces dimensions sociales ou autres. Mais en même temps, bon...
Le monde ancien est terminé. Le monde ne voit commencer. Nous sommes les premiers à en faire l'expérience. Ça va. Et tout le mal qui s'approche de nous doit disparaître de cette terre. Nous avons autorité pour cela. Parce que le pape Paul VI a ouvert par son pouvoir des clés la fécondité efficace de la prise d'autorité. Nous sommes les membres vivants, la maternité divine vivante, Marie vivante comme mère divine. Eh oui. Et ouais, donc, on ne lâchera pas. On le sait. On le sait. Et on demande la grâce d'y être fidèle, hein, c'est ça. C'est fatigant, hein. Oui, alors, non. Faut pas avoir l'overdose des messes. Parce que c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je fais l'overdose des messes.
Parce que tu te trompes, les gens regardent, ils retombent, mais vous ne saurez pas, non. Mais si c'est le maximum autorisé par le canon de l'Église,
ben, j'étais bien informé. Ils disent tous que ce n'est pas autorisé pour faire.
Ouais. Alors, je n'ai pas les textes exacts qui autorisent, mais bon, je leur dis ça. Je leur dis pas appeler par Patrick parce que standard va se tuer.
Il y a la messe perpétuelle, alors comment ça se passe?
Comment?
Les endroits où il y a la messe perpétuelle, alors.
Oui, c'est pas la même personne.
C'est pas pareil.
Oui, mais...
Foncombeau, par exemple, pas pareil. Il y a une multitude de prêtres. Là, il y a un prêtre. Il y a un prêtre. Amen.
La mère de Dieu, la maternité divine de Marie, célébrer la messe pour être le porte-parole de la maternité divine de Marie, pour demander pardon. C'est elle qui engendre en nous cette autorité mariale ultime et éternelle qui est la sienne. C'est elle qui l'engendre en nous pour prendre autorité avec le Saint-Père. Dans l'Eucharistie, dans ces trois blancheurs, dans l'Eucharistie. Et on s'écoule dedans, tu vois. Comme si on se mettait dans un lit, tu vois. On se mettait dans des draps, comme ça, on s'écoule. On s'écoule là. Mais là, et on prend autorité, on demande pardon, on sait que c'est pas nous. On sait que c'est l'unité des trois qui se réalise. On est le temple de l'unification des trois. Dans la demande de pardon.
C'est pas un état, c'est un acquis. C'est un acquis, mais bon,
c'est une expérience, c'est une connaissance. C'est un acte d'expérience surnaturelle des engendrés de Dieu. Et ça dépend pas du droit canon.
Ah, d'accord. Ben, donc on peut faire 10 messes si on veut un jour.
Ça, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir. Ça dépend pas du droit canon. Prendre l'autorité, ça ne dépend pas du droit canon. Le droit canon ne régit pas la prise d'autorité. D'accord? C'est pas marqué dans le droit canon comment Marie doit faire pour prendre l'autorité, pour qu'il y ait l'incarnation. C'est pas marqué dans le droit canon. C'est la liberté de Dieu. Dans les engendrés éternels de Dieu. Et là, c'est au-dessus de la Torah. Et le maître du sabbat, c'est nous.
J'entends bien que l'aspect quantitatif n'a aucune importance. Je suis pas fou et pas idiot. Ce que je veux dire par contre, c'est que quand même dans cette situation-là, je pense, enfin, j'ai le droit un petit peu quand même de me poser quelques petites questions, qu'on ne doit pas être trop nombreux quand même.
Dans
cette situation. Non, mais ce n'est pas ça la question, je viens de le signifier. C'est une suggestion. Attention, je ne peux pas. Moi, je suis pas là pour faire des réunions, rien à secouer les réunions. J'en ai fait dans ma vie, pour le moment que ça va commencer, tout le monde catholique. Que je pose une suggestion, c'est tout. Et la réponse peut se donner que sur le discernement de Saint-Esprit, je ne l'ai pas. Donc je m'adresse à un saint.
Non.
Combien
y en a-t-il?
Combien?
Un jour, quelqu'un m'a dit, il y en a 3000.
C'est comme mandant l'Esprit Saint.
Ça va. Je lis la Sainte Écriture, je vois quand même que j'ai un de mes 300.
300 sur la Sainte Écriture?
Oui, et 300 de Gédéon.
D'accord, ouais, Gédéon, voilà. Ça fait partie de la prière de la nuit, on parle de Gédéon.
Je lis Saint Jean dans l'Apocalypse, je vois, il y en a 144 000. Bref, il y a de nombreuses réponses. Moi, personnellement, je dis il y en a un. Et c'est le roi.
Amen.
Mais les 300 qui sont sur la terre, les grands saints de la terre d'aujourd'hui, les âmes les plus pures, les plus immaculées qui aient jamais existé, et qui le sont à jamais, de manière irréversible, encore vivants parmi nous sur la terre, dans l'église militante, qui ne se connaissent pas eux-mêmes, sans doute, probablement, sont très très proches, spirituellement, du roi. Mais ce ministère est celui du roi. Il ne peut pas le faire sans son royaume, enfin, sans... Mais c'est le roi, rien pour moi, rien. Et nous, quand nous prenons autorité, nous essayons d'être le plus proche de ce que fait le roi possible. Le plus propre, le plus proche possible de ça, que nous disons toujours la troisième prière d'autorité, hein, avant la grande prière finale. Toujours. Et il faut donc que nous fassions cette expérience personnelle de ce que c'est qu'une mission invisible des personnes divines dans notre âme. Il va falloir quand même qu'on ait cette catholicité, si je puis dire, enfin, qu'on ait cette... de pouvoir savoir si oui ou non, quand et comment et de quelle manière se réaliser du dedans de nous, dans la nature humaine tout entière à travers nous, une mission invisible d'une personne divine envoyée par le Père. Dans notre âme, à travers notre âme, dans la nature humaine tout entière, de repérer ça, et de repérer si c'est le Saint-Esprit qui t'envoyait comme personne divine dans notre âme, ou le Verbe de Dieu comme épousait du Père, c'est la première étape pour voir clairement où se réalise la prise d'autorité dans l'augmentation de la grâce sanctifiante universelle. Et c'est une expérience chrétienne, ça. La vie chrétienne, comme dit Saint Séraphin de Sarov, c'est l'expérience du Saint-Esprit. Donc si je ne sais pas reconnaître s'il y a eu une mission invisible du personne divine dans mon âme, j'ai bien peur que tu ne sois pas à la hauteur de la prise d'autorité. Mais le roi, lui... Et c'est ce que c'est que plonger ses deux mains dans son essence, c'est-à-dire de avoir comment la libéralité de Dieu fait émaner la mission invisible du Saint-Esprit en même temps que la mission invisible de l'imposer dans la nature humaine tout entière à travers lui. Ça, il le voit, hein? Je crois qu'il le voit. C'est pas que je crois qu'il le voit, c'est Saint Thomas d'Aquin qui l'affirme. Bien sûr qu'il le voit, on repère des signes extrêmement, extrêmement, extrêmement délicat, quasi imperceptible. Mais tout de même, dans la durée, oui, on repère que tu es passé à travers une mission invisible d'une personne divine dans notre âme. Et c'est ce que j'ai retenu, tu vois, de 8 ans de formation chez les frères de Saint-Jean. Si je devais n'avoir retenu qu'une seule chose, c'est ça. C'est la mission invisible des personnes divines dans l'âme. Toute la formation, Jean-Annie Gauvin, de l'Église pour faire des prêts témoins, c'est pour qu'ils perçoivent ça, et qu'ils soient fidèles à ça, et qu'ils soient le temple de ces missions invisibles pour l'augmentation de la grâce. Parce qu'il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce sanctifiante. Donc nous n'avons qu'une seule solution, c'est l'augmentation de la grâce. Et c'est notre troisième prière d'autorité. Et je peux te dire que si on doit lire saint Thomas d'Aquin, par exemple, il faut lire la 13e date en Sainte Trinité, jusqu'à comprendre un stylo à la main, la mission invisible des personnes divines dans l'âme des fidèles. Tout le reste, c'est pour essayer d'amener à ça. Le reste, Aristote, l'induction de l'acte, laquelle les 5 modalités, tout ça, tout le reste, transubstantiation, tout. C'est pour en arriver là. Et lorsqu'on est arrivé là, alors après, comme dirait le père Jean de Montmorin, et bien une fois que bien que nous avons bien entendu cette chose-là, et bien à nous de le faire. Et je connais certaines personnes qui disent suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui ne font pas cela. Et nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ. Faire cela. C'est beau ça. Bon, une petite discussion, mais c'est pas une discussion pour rien. C'est une discussion du premier jour de l'année, de la maternité divine de Marie, que mon nouveau commence quand même là. Mon ancien est terminé. La page est tournée, c'est fini maintenant, terminé. Ça, si un jour on peut dire, ça y est, la page est terminée, c'est fortuit.